Bonjour à tous et bienvenue sur le 29e Weekly News. Avec moi ce soir pour commenter l'actu, Corwin.
Bonsoir tout le monde.
Mister René Benny.
Bonjour tout le monde.
Et Bruno.
Oui, et bonsoir à toutes et tous.
Au sommaire de ce soir, nous allons parler de Vertigo, DC, Marvel ou de l'Indé avec des projets Kickstarter en plus. Le gros sujet sera consacré à DC et son What the Fuck Month, le mois où tout est possible. Enfin, dans la partie Screen News, énormément d'annonces puisque c'est en ce moment de ce côté-là que tout bouge. En fin d'émission, nous parlerons du patch de la semaine et enfin de mails d'auditeurs. Je suis Steve et vous écoutez le 29e Weekly News. On commence comme d'habitude avec le quoi de neuf et on va commencer par Corwin. Quoi de neuf, Corwin ?
Pas grand chose.
Bon, d'accord.
Comme ça, c'était du quoi de neuf.
Quoi de neuf, Benny ?
Pas grand chose, non. Tiens, figurez-vous que je suis allé dans un festival qui s'appelle Angoulême.
Ah, tiens donc.
Et j'ai vu des gens qui vous ressemblaient en plus.
Ah merde.
Ouais. Alors faites gaffe quand même. Mais sinon. Pas grand chose de neuf, effectivement, puisque je pense que vous avez déjà tout raconté dans le podcast spécial à cet effet.
Oui, un petit peu, mais pas grand chose non plus, quoi.
Qu'est-ce que je peux dire? C'était sympa, je suis resté qu'une journée, donc de toute façon, c'était forcément sympa. Après, ça aurait été insupportable. J'ai beaucoup aimé la nouvelle rubrique, en fait, instaurée la semaine dernière, celle de Sam, avec son WhatsApp où tu dois deviner ce qu'a dit Sam.
Oui, il y a eu quelques petits soucis techniques tout au long de l'émission. Enfin, tout au long de l'émission, ça a dû arriver trois fois, je crois, dans l'émission.
Mais... On a galéré, hein.
Oui, mais le WhatsApp, c'était énorme. Moi, j'ai éclaté de rire, franchement, quand je l'écoutais. Parce que dès qu'il commence à dire son WhatsApp, t'entends plus rien. Enfin, t'entends une espèce de truc, puis tu dois deviner ce qu'il dit, puis à la fin, on vous entend dire « Très bien ». Okay. Et alors, je vous dis pas ce que j'ai compris moi dans ces mots parce que je pense que ça passera mal à l'antenne.
Effectivement, ouais, on a eu quelques petits problèmes de connexion pendant le podcast. On a été obligé de l'enregistrer en deux morceaux. Enfin, ça a été vraiment une vraie galère. Bon, c'était sympa quand même, mais le pire, ça a été le montage, je crois. Mais, voilà. Bruno, ton WhatsApp.
Angoulême, on en a parlé dans le podcast qui sortira prochainement, donc je vais pas revenir dessus.
Je vais essayer cette semaine, hein, mais pas sûr.
Ouais. Mais sinon, après, j'ai commencé un nouveau jeu vidéo là qui est sorti récemment sur PS3, qui s'appelle Ni no Kuni, qui est un jeu de rôle japonais fait par Level 5 avec les studios Ghibli. Donc c'est vraiment très sympathique. C'est un monde très féerique, on retrouve vraiment le design des productions des studios Ghibli, c'est super cool quoi. Enfin, ça commence de façon un petit peu noire, mais après très vite ça part un peu dans la folie et la fantasy, et très sympathique pour l'instant.
Et alors, est-ce que c'est un peu comme pas mal les films de Ghibli, avec une morale un peu écolo ou des choses comme ça?
Pour l'instant, là où j'en suis, j'ai pas trop senti ça. Mais on sent quand même pas mal l'influence Ghibli dans le côté émotion surtout, et puis le fait que le focus soit sur un enfant, ça change, parce que les RPG en général on dirige un super soldat très puissant ou une sorcière, voilà, ou une super magicienne, alors que là c'est un petit garçon tout con quoi, c'est assez sympathique.
Ouais, puis généralement c'est vrai que les productions Level 5 sont plutôt bonnes.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, une bonne surprise pour l'instant.
Bon, à part leur nom qui est légèrement pédophile quand même, hein. Nino Kuni, bon, voilà.
Tout de suite, Steve.
Je suis désolé, elle va pas me dire que je suis le seul à y avoir pensé.
Mais ils ont décidé de garder le nom original pour la sortie française, donc voilà.
Ouais, mais bon, faut bien un petit jeu de mots sexuel pour commencer l'émission tout en douceur. Sinon, ça s'appelle à sec et ça fait mal.
Voilà.
Bref, de mon côté, quoi de neuf, comme vous tous, hein, Angoulême, voilà. Mais surtout beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup de dodo. La preuve, je suis en retard ce soir, puisque je m'étais endormi comme une grosse merde. Donc voilà. Allez, je l'avoue, en pleine émission, je m'en fous. Non, bon, le podcast spécial que l'on a enregistré samedi soir, complètement crevé, devrait sortir, si possible, jeudi. J'espère pouvoir le sortir jeudi.
était très what the fuck aussi. Lui.
Et puis ouais, il y aura des interviews, il y aura des vidéos, il y aura vraiment pas mal de choses qui vont venir au fil de notre disponibilité, surtout parce que monter tout ça prend du temps. Voilà. On va commencer maintenant les vraies brèves, la vraie actu de cette semaine. Et l'actu commence... Oh là là, je suis pas réveillé, excusez-moi. On commence avec le crossover Unwritten Fables, que j'ai décidé d'appeler Unfables, parce que ça me fait marrer. Et en fait, ce sera pas vraiment un crossover, tout va se passer dans Unwritten. Ce sera pour le numéro 50. Bruno, tu as envie d'en parler ?
C'est une série fable que j'aime beaucoup. Unwritten, j'ai comme beaucoup de Français, j'ai lu que les deux premiers tomes, donc j'ai quand même pas mal de retard et ce numéro 50, je suis pas prêt de le lire en français. C'est une bonne idée parce que c'est deux univers qui sont assez compatibles, assez proches. Des auteurs aussi, Mike Carey et Bill Willingham, qui aiment bien jouer avec les mythes et la littérature. Donc, pourquoi pas, c'est une bonne idée.
Corwin.
Alors moi j'ai lu ni l'un ni l'autre, c'est honteux, le Unwritten faut que je le pique à une copine, on lui a offert pour son anniversaire, et Fables faut que je m'y mette parce que tout le monde m'en parle, ça a l'air
Fables,
excellent.
Fables c'est génial.
J'en ai l'envie mais j'ai pas encore eu le temps.
Benny.
Moi j'ai lu pas mal des deux et justement je trouve que c'est excellent, pour moi c'est la meilleure nouvelle de la semaine. C'est j'ai hâte de voir ça, quoi. Ça va être super intéressant de voir comment ils vont mélanger ces deux univers qui sont si proches et pourtant si éloignés l'un de l'autre.
Si t'éloignés.
Si t'éloignés, oui. Avec une fausse liaison. J'espère que ça s'entendait pas, mais bon, tant pis. Merci. Si éloignés. Oui, enfin bon, qu'importe. C'est pas grave.
Tu galères.
C'est pas grave. Moi aussi, j'ai besoin de sommeil. Le truc, c'est que... au fur et à mesure de Fable, il y a pas mal de questions sur les mythes qui sont posées, et puis dans Unwritten aussi. Et finalement, la logique est un peu différente dans les deux univers, donc j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va ressortir de ça, puisque peut-être qu'ils vont nous faire des grosses révélations en fait, du coup sur l'un et l'autre, sur l'un ou l'autre de ces univers, quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Franchement, pour moi, c'est le meilleur crossover depuis bien longtemps.
Alors, oui, c'est pas purement un crossover, hein, comme on a dit, ça se passera que dans Unwritten, mais les personnages d'Unwritten rencontreront les personnages de Fable. La série Fable, elle ne sera pas impactée, en tout cas, pour le moment, à ce qui est annoncé. Pour le numéro 50, ils vont nous faire une cover qui est vraiment l'exact identique du numéro 1 de Unwritten, sauf que le personnage qui attrape le bras de Tom Taylor, le personnage principal de Unwritten, c'est Bigby, justement. Une jolie petite cover et un joli petit clin d'œil, je trouve, au départ de cette série. Voilà, on continue toujours chez Vertigo avec, ça y est, l'annonce de The Wake. Bruno.
On a la date de sortie pour cette maxi-série en 10 numéros avec Scott Snyder au scénario et Sean Murphy au dessin. Donc ce sera pour le 1er mai 2013 pour le numéro 1. On a la couverture du numéro 1 qui a été présentée aussi assez énigmatique avec une sorte de main qui est en train de détruire de la glace ou c'est assez difficile à décrire.
Ouais,
en fait.
Enfin la main est palmée, hein.
Ouais, c'est une main
palmée. C'est une main d'amphibien, ouais.
Ouais. Et avec une petite description très rapide du synopsis. Ça parle d'une biologiste marine qui s'appelle Lee Archer. C'est le département de sécurité américain qui va essayer de la contacter pour avoir son avis sur une nouvelle menace. Et elle va être un petit peu obligée par les États-Unis pour aller s'impliquer là-dedans. Et beaucoup de mystères, des choses assez terrifiantes. Donc c'est un titre dont on attend beaucoup, parce que chez Vertigo, on en avait déjà parlé, il n'y a pas eu grand-chose d'annoncé pour cette année.
Il y aura peut-être aussi des petits passages sur l'environnement, puisque ça va se passer aux alentours d'une raffinerie de pétrole, enfin pas d'une raffinerie, mais
d'une station...
Station de pompage.
Ouais, voilà, c'est ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Voilà, donc il y aura peut-être aussi un petit aspect environnemental.
On savait que ça allait être sur la cryptozoologie, les choses un peu au fond des océans, les trucs auxquels on n'a pas accès. Nouvelles espèces, choses comme ça.
Mais... Ça fait un peu cliché quand même tout ça. Ça fait un peu film d'horreur, tu sais, comme...
The Thing.
The Thing, ouais.
Plein de choses, au fait. Même comment ça s'appelait, 28 jours de nuit, non, je sais plus, je sais plus combien il y en avait, mais enfin,
30
bon,
jours
bref,
de nuit.
30 jours de nuit, oui. Pourquoi 28?
Parce que 28 jours plus tard, je pense que
ouais,
t'as
j'ai
dû
le faire. Oui, voilà, c'est pour ça, ouais. Voilà. C'est le crossover, c'est mon crossover, en fait. Ouais, bah ouais, non, mais... c'est vrai que en y pensant, ce serait très con.
Finalement, ce serait vampire contre zombie. 28
jours de nuit plus tard.
Ouais, ouais. Mais, putain, on va donner des idées, là. Il y en a qui vont me le piquer. Mais, non, mais enfin, voilà, c'est... ça me fait penser à pas mal de choses, et puis ça me fait penser aussi aux premiers épisodes d'Aquaman, là, qu'on a eu avec les New 52,
oui.
aussi.
Ouais, ouais. Mmh. Avec The Trench.
Avec... avec voilà exactement ces espèces de créatures sous-marines qui font penser un petit peu à ce
super héroïque là, ce sera a priori
bien sûr
oui,
tout à fait
réaliste
ouais.
Mais
et moi c'est à ça que m'a fait penser la première image hein. Comme disait Benny, ça m'a fait penser au premier arc d'Aquaman.
Pareil pour moi, j'ai vu l'image, j'ai fait ah tiens The Trench.
Voilà,
comme quoi hein, comme quoi finalement même si on a critiqué pas mal Aquaman de par son rythme, bah voilà, ça nous a marqué quand même.
Bon, bah c'est surtout que ça reprenait un truc assez classique.
Qui sait, sera peut-être en fait l'adaptation de l'homme de l'Atlantide.
Peut-être. Avec le retour de Duffy.
Ouais, Patrick.
Patrick Duffy.
On continue et on termine avec Vertigo. Enfin, on termine cette partie
ouais,
sur Vertigo.
Vite fait, hein.
Une éditrice de Vertigo qui part chez Dynamite.
Voilà, bon, c'est Sarah Litt en fait, on a eu l'info, qui participait en tant qu'éditrice à plusieurs bouquins comme Django Unchained et puis d'autres titres plus DC, qui a quitté Vertigo et DC et qui part faire Dynamite. Donc ça fait un peu partie de toutes ces personnes qui ont l'air de quitter un peu le navire.
Ouais.
Bon, on avait déjà eu un débat sur l'avenir de Vertigo.
Oui,
peut-être qu'il va se passer des choses importantes, peut-être qu'ils changent complètement les membres de l'éditorial, soit enfin bon.
Ou peut-être qu'elle a senti le vent tourner, qu'elle se dit bon, je vais aller voir ailleurs et puis.
Bah de toute façon, je pense que les premières conventions de l'année vont répondre un petit peu à toutes ces questions concernant Vertigo, ouais. En bien ou en mal, bien sûr. On passe maintenant à un petit peu d'indé avec le retour. Alors, la semaine dernière, on a lancé le retour de X-Files chez IDW. Là, c'est le retour d'une autre licence qui a été ensuite continuée en comics. C'est celle de Tomb Raider qui va revenir.
Ouais, c'est surtout pour coïncider avec la sortie du jeu, en fait, je pense. Donc, je sais pas si ça va être un comics qui durera très longtemps. Mais parce que donc ce serait quoi, ce serait pour un,
alors c'est un truc en 6 parties en fait ils mettent que c'est un 6-part hardcover omnibus, ce qui est assez bizarre
carrément quoi,
qui serait en fait le qui serait un prologue,
les mots clés là.
Qui serait un prologue au prochain jeu vidéo Tomb Raider The Beginning.
D'accord.
Voilà, donc ça revient cette fois-ci, ça ne sera pas chez Topco comme la première série l'a été, mais chez Dark Horse. C'est la chose qui m'a étonné le plus, en fait, c'est que c'est Dark Horse qui reprend Tomb Raider. Je sais pas si l'un de vous avait déjà lu la série Tomb Raider chez Topco.
Non, pas du tout.
Non. Ça m'attire pas du tout. Et puis, bon, les jeux vidéo sont ce qu'ils sont, quoi. Je les ai pas trouvés exceptionnels, donc, voilà.
Oh, quand même, il y en a des classiques, pendant les premiers, quoi. C'est,
les premiers, ouais.
Moi, ça m'a marqué, quoi. Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, surtout
moi, c'est le premier, surtout, qui m'a marqué.
Mais je sais pas.
Ouais, mais moi, j'ai jamais trouvé ça génial.
Quand on voit les images du prochain, ça a l'air de s'annoncer plutôt pas mal, quoi, en tout cas.
Bah, ça a l'air d'être un peu complètement pompé sur Uncharted, quoi.
Ouais, mais bien sûr. Mais bon, c'est un moyen de relancer la franchise Tomb Raider, donc.
Mais avec une nana à gros seins, donc ça change tout. Non, mais ben, voilà. Non, mais de toute façon, c'est vrai. C'est vraiment ce qui fait le plus le petit plus de Monsieur Plus.
Ça a l'air d'être un mix, ouais, entre Uncharted et Far Cry. Avec la gestion un petit peu elle a un arc, elle pourra se battre avec un arc, elle pourra fabriquer des objets.
En tout cas, si vous...
le jeu a l'air pas mal.
Si vous voulez découvrir le début de l'histoire, vous pourrez essayer de récupérer ces graphic novels chez Dark Horse, j'allais dire chez Topco, n'importe quoi.
On en avait eu d'ailleurs en français, je me rappelle, dans les années 90.
Mais il y a eu des crossovers en plus avec
Witchblade.
Oui,
avec Witchblade.
Voilà, deux bonas à gros seins.
C'est dit avec tellement de classe et tellement de charme.
C'est marrant parce qu'on se souvient, des crossovers, donc on se souvient de ces deux personnages qui étaient ensemble, mais par contre on se souvient absolument pas de l'histoire à mon avis.
La série avait quand même duré 50 numéros, hein, mine de rien. Donc,
Oh putain!
Eh ouais.
Sans déconner, 50 numéros. Eh ben, c'est là où on se rend compte que l'industrie du comics c'était autre chose il y a quelques années. Hein. Ça se sentait mieux.
Mais là encore une fois, c'était peut-être aussi pas un marché. Enfin, c'était peut-être pas acheté par des gens qui sont fans de comics, mais peut-être plus de ceux qui étaient fans de l'univers de Tomb Raider ou fans du jeu vidéo.
Par des gros pervers.
Et pas forcément des lecteurs de comics classiques, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement le marché.
Des fanboys.
Ouais, voilà. Mais le marché, t'as raison, n'était peut-être pas le même non plus à l'époque. Hein. On passe maintenant chez DC avec le Action Comics 17 et 18 qui prennent de l'ampleur tous les deux et qui changent de prix surtout, puisque on savait que le 17 qui devait être le dernier épisode de Grant Morrison devait être un numéro double de 48 pages. Finalement, il est réduit à 40 pages et passe de 4,99 à 3,99, tandis que le numéro 18 qui devait être le début de l'arc, enfin en tout cas du run de Deagle sur Action Comics, sera finalement repoussé au 19 pour laisser un dernier épisode pour Grant Morrison, qui lui, cette fois-ci, fera 48 pages et coûtera 4,99. Est-ce que c'était clair?
Oui, ouais, c'est clair, mais c'est surtout pour moi une très bonne nouvelle parce que du coup, ça va lui permettre peut-être de vraiment bien conclure cet arc que moi j'ai adoré. Donc.
Ouais, bah pour moi c'est une mauvaise nouvelle puisque déjà il avait qu'à se démerder pour faire ce qui était prévu et puis ça prouve que là.
À la base, ça devait être 16.
Finalement, il se dit.
C'est ça, c'est, oui, à la base, voilà, ça devait être 16. Ensuite, on a dit, bah, finalement, ce sera 17 avec un numéro double pour terminer. Maintenant, c'est 18 avec deux numéros doubles pour terminer.
Mais du coup, ouais. Moi, tu vois, ça montre bien que contrairement à ce que vous disiez, il a pas fait ça juste pour parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il était, il aimait pas trop le personnage. C'était vraiment un truc, un projet qui a l'air de lui tenir à cœur. Il veut absolument le finir de façon vraiment chouette. Et
ou est-ce donc, du délayage
Non, bah moi ça veut surtout dire que le mec, il avait pas du tout prévu son truc à l'avance et qu'il est totalement comme
bla,
ça.
Bla, 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 bla.
Ah bah, écoute, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sinon, ce serait terminé.
Mais peut-être qu'il y a aussi une petite partie délayage, hein. Peut-être que DC lui a dit, écoute, tu fais quand même vendre Action Comics, Andy Deagle, on est peut-être un peu moins sûr, parce que c'est vrai qu'on voit les réactions sur le net ne sont pas forcément toujours enthousiastes à l'arrivée de Deagle sur Action Comics, peut-être qu'on lui a demandé de faire un dernier petit numéro, essayer de pousser un peu une petite histoire, une dernière, et puis voilà.
Je veux dire, pousser un petit caca, mais non, mais franchement,
là, je
le
juge
mec,
pas,
le mec
je
navigue
ne
à
que,
vue.
Que...
Non, non, mais
hypothèse.
Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il navigue à vue, c'est que voilà, il n'arrive pas à terminer son truc et il sait pas trop comment faire, alors voilà, il demande toujours plus de temps.
Alors, la cover qui avait été sollicitée pour le 17 sera en fait celle du 18, la cover du 17 reste à voir, en fait. Ça débarque le 6 février pour le 17, c'est-à-dire cette semaine. Et puis le 18 sortira le 6 mars. Et ce sera la fin de Grant Morrison sur Superman.
Exactement.
Corwin, les Action Comics, vous les avez lus un peu ?
J'ai commencé, mais je suis loin de ces numéros-là. Donc après, je trouve que c'est pas mal que le prix baisse et qu'il y ait une histoire plus longue, parce qu'effectivement, ça peut lui permettre de ranger les jouets correctement. Ouais.
En réalité, le prix ne baisse pas forcément, étant donné qu'on nous sollicite un nouvel épisode double. Alors, c'est vrai qu'on a $1 de moins pour le 17, mais il fait que 40, il va faire 8 pages de moins. Et le 18, qui devait être un numéro simple, avec le début d'Andy Deagle, se retrouvera en numéro double et qu'on va payer $4,99.
Ouais, enfin voilà, ça fait la balance sur 2 mois, finalement.
Les Action Comics ne font que, font déjà $4 à la base, donc il y a quand même qu'un dollar de plus pour 20 pages en plus, donc.
Bah non, c'est ça parce qu'il y a un backup, c'est pour ça qu'ils font 3,99 comme tous les comics DC en fait, tous ceux qui ont un backup font 3,99.
Oui, je sais, mais du coup, ils rajoutent quand même une vingtaine de pages là et ils rajoutent juste $1.
À voir s'il y aura un backup ou si ce sera si ce sera une véritable histoire de 48 pages quoi.
Puis dans Action Comics au moins les backups avaient vraiment un intérêt. Donc
mais pendant qu'on est en train de parler de grosses éditions en tout cas de numéros qui ont de plus de pages, va sortir chez Marvel il y a un truc qui s'appelle Wolverine Adamantium Collection, qui va être un gros, gros, gros bouquin, un peu du type de ce qu'avait fait Taschen avec le DC, le gros truc DC.
Ouais.
Alors, on nous annonce un bouquin qui va comprendre à l'intérieur, donc c'est déjà du hardcover. Il y aura dedans le Wolverine Origin de Paul Jenkins et Adam Kubert, le Wolverine Weapon X de Barry Windsor-Smith, le Wolverine, la première mini-série sur Wolverine par Chris Claremont et Frank Miller, Wolverine Not Dead Yet par Warren Ellis et Lenny Liu, Wolverine and the X-Men par Jason Aaron et Chris Bacalo, alors on ne sait pas combien d'épisodes encore, et il y aura aussi d'autres petites histoires écrites par Larry Hama dans la série régulière Wolverine, la première du nom. Donc un énorme bouquin qui fera donc 16 livres, soit à peu près 8 kilos. Ce qui n'est pas rien. Et les premières photos nous montrent un bouquin gigantesque avec les éditeurs qui ont du mal à le soulever. Moi, je trouve l'édition assez intéressante de l'avoir appelé Adamantium Collection. Faut voir ce que ça va donner, quoi.
C'est un bel objet, hein.
C'est une grosse anthologie, quoi, mais une anthologie king size.
Mais par contre, il n'y a pas tant de pages que ça, puisqu'au final, c'est que 720 pages. Donc,
C'est déjà pas mal, hein. C'est quasiment la taille d'un omnibus.
Oui, mais il y a des omnibus qui sont plus légers et beaucoup plus gros en nombre de pages, quoi. Donc,
Mais là, clairement, en plus de l'avoir appelé Adamantium Collection de par la taille, c'est aussi parce que ça va revenir pas mal sur tout ce qui concerne Adamantium chez Wolverine. On a Origin, où on voit comment il découvre ses pouvoirs. On a Weapon X, c'est là où on lui met, etc., etc. Donc,
on lui met, oui, attention.
Oui, on lui met l'Adamantium.
Oui.
Donc va y avoir pas mal de petits trucs comme ça. Je pense que c'est un bon moyen pour ceux qui veulent découvrir le personnage, enfin, ou qui n'auraient pas toutes ces séries là, qui s'y seraient mis sur le tard, pourquoi pas. Et puis c'est un joli objet de collection quand même.
C'est clair.
Moi je trouve ça pas mal. Alors je pense pas avoir lu toutes les séries qui sont présentes dedans, mais il y en a que j'ai lu et qui sont franchement intéressants. Donc je trouve que c'est une bonne initiative.
Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce bouquin donc, va être très lourd, va être chiant à manipuler, mais justement, si vous l'achetez, pour que ce soit moins chiant à manipuler, vous aurez aussi un code qui vous permettra d'avoir l'équivalent en digital. Donc, pouvoir avoir l'objet de collection et pouvoir le lire de façon plus facile le soir au lit, quoi, par exemple.
Donc, un code pour le réduire, tout simplement.
Sans augmentation de coût, donc ça, c'est quand même plutôt sympa, je trouve.
Mais ils le font de plus en plus sur les hardcovers.
Ouais, non, mais c'est toujours une bonne initiative, je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, la question.
Il y a le prix, j'ai pas.
Non, j'ai pas trouvé le prix non plus. Hein.
J'ai pas trouvé non plus.
Mais ça sort en juin, donc.
To be announced.
Ouais, voilà, ça sort.
Mais ce sera à payer en pièces d'adamantium, par contre, donc faudra chercher.
Et c'est quoi qui est plus fort, c'est l'adamantium ou le vibranium?
Eh bien, c'est une question à laquelle j'aurais pu te répondre si j'étais pas autant la tête dans le cul parce que je suis encore endormi.
Mais non, mais sans rire, par contre, pourquoi Wolverine, par contre? Alors, je sais qu'il est très vendeur.
Il y a le film,
oui, c'est vrai qu'il y a le film.
Origin.
Il y a le film.
Qui sort cet été, je crois.
Hein. J'espère qu'on aura le même en, par exemple, une édition toile de Spider-Man. En toile, en vraie toile d'araignée.
Bon, super léger.
Des pages en soie.
Un truc tissé, oui, voilà. Avec tous les comics, mais refait en couture, bien sûr.
On va passer maintenant à la grosse annonce Marvel qui est tombée il y a de ça quelques heures. C'est Infinity, qui est le prochain crossover. Enfin, le prochain event.
C'est pas le prochain, c'est le prochain, ouais, t'as raison.
Age of Ultron n'est pas encore sorti quand on nous annonce déjà la suite. On savait qu'il y aurait un gros event à tomber pendant cet été. On le sait maintenant, c'est Infinity. On a une première image où on voit Thanos.
Oh là, qu'est-ce que c'était original et pas.
Ce qui n'est pas si surprenant que ça.
L'originalité vient des auteurs, en revanche, puisque au dessin nous retrouverons Jim Chung et au scénario nous retrouverons Jonathan Hickman.
Du lourd.
Voilà, un event réalisé par Jonathan Hickman, ça nous changera des events Bendis en tout cas. Au moins il y a du changement.
C'est étonnant parce que je croyais que ça allait être Bendis qui allait gérer l'event de cet été. Et du coup, je suis content que ce soit Hickman qui s'en occupe.
Oh, je suis blasé, moi. J'en ai marre. J'en ai déjà marre. Déjà, j'ai envie de dire, Hickman, il fait déjà des events dans ses propres séries. T'as l'impression de lire un event à chaque fois, donc je sais pas. Moi, j'en ai ras le cul. bon.
Mais avec Jim Chung, en plus, on sait qu'au niveau du dessin, ce sera sans doute très spectaculaire.
Ça c'est bien, tant mieux.
En tout cas, on sera vite fixé un petit peu sur le contenu de cet event, puisque ça va commencer dans les pages du Free Comic Book Day 2013, donc de début mai 2013, puisqu'on aura à l'intérieur une sorte de prologue qui sera dessiné par Jim Chung aussi.
Ah, mais non, mais attendez, je viens de réaliser. Vous souvenez-vous, on vous a annoncé plein de morts lors de Ultron War, lors de Age of Ultron. Donc des morts, Thanos, enfin tout ça, ça va ensemble, quoi. C'est logique qu'ils viennent après.
Non, puis surtout, il y a la mini-série Thanos sur ses origines.
Mm-hmm. Ouais.
Ça fait un bon petit prologue à ce gros crossover.
À noter, puisqu'on parle un petit peu d'Infinity, sur la cover que l'on voit, donc on voit Thanos avec une espèce de cristal tout éclaté, ou de verre, je sais pas trop, dans lequel se reflètent plein d'images de personnages, et on voit notamment, sur une des pages, Ex Nihilo Vous savez, le premier,
oui, exact.
Premier ennemi qui affronte l'équipe d'Avengers par Hickman. Donc, le retour de ce personnage-là, en tout cas, pour ce crossover.
Ouais, ouais, il y aura les Illuminati aussi, on les retrouve presque tous avec les Inhumains, avec Doctor Strange.
Et même Mister Fantastic, ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant pour être noté, puisque normalement, il est censé être perdu au fin fond de la dimension bizarre dans laquelle ils sont partis avec Matt Fraction. Et on nous annonce aussi que dans ce numéro Free Comic Book Day, qui sera donc une intro à Infinity, on aura aussi un petit preview, un sneak peek comme ils appellent ça, d'une nouveauté Marvel qui n'a pas encore été annoncée. Voilà.
D'accord. C'est peut-être le projet dont nous a parlé Gabriel et Delotto.
Peut-être.
À Angoulême. Peut-être.
Essayons de nous enthousiasmer un petit peu.
Pour le Free Comic Book Day, ils font fort quand même. Enfin, comme on sait que DC va sortir un truc tout pourri qui ne sera qu'un reprint de Superman, au moins ils présentent un truc intéressant.
Toi, ça t'intéresse, ouais, Corwin?
Oui, oui. Déjà, le projet m'intéresse, rien que par les noms des auteurs qui vont être dessus. Puis, j'ai l'impression que pour une fois, on va avoir un crossover avec quasiment l'ensemble de l'univers Marvel par rapport à ce qu'ils annoncent. Et puis voilà, au niveau du FCBD, au moins ils tapent fort comparé à DC qui va quasiment rien faire.
Notez quand même le rapprochement Infinity avec tous les Infinity Crusade et compagnie, et c'est encore Thanos le méchant.
Ouais. C'est vrai.
Originalité, Marvel, originalité.
Bah, comme ça parle à beaucoup de gens.
Benny, toi, parce que c'est Hickman, ça te branche plus du tout, ça y est.
Je sais pas, moi je suis pas tellement emballé par ce qu'il fait actuellement sur les titres Avengers, donc j'ai très peur pour le crossover. Et puis c'est déjà too much, enfin c'est déjà, j'ai limite l'impression de lire un crossover à chaque fois. Je pense que c'est un petit peu le problème avec les scénaristes actuels, c'est qu'ils font des trucs tellement énormes, c'est ce que je disais l'autre fois, que au bout d'un moment on sature. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on va? Si tous les mois il se passe un truc extraordinaire, je sais pas. Voilà, moi ça me laisse froid, quoi.
Voilà,
l'énième retour de Thanos.
Je suis entièrement d'accord. Hein. Event sur event, là il pousse, quoi. Franchement, il pousse.
Ouais.
On a un event en mars qui va durer 3 mois. On a un event qui commence cet été. Franchement, là ils abusent.
Et à force de pousser, bah voilà, on sait ce qui se passe.
C'est l'occasion justement de changer de sujet. On passe à des petits projets Kickstarter, Bruno.
Oui, et ben je vais revenir un petit peu dessus. Il y a un projet de la famille Kirkham, donc Tyler Kirkham et sa femme, qui s'appelle The Family Troll. Donc ce sera un livre plutôt qui s'adresse aux enfants. Ils essaient de récolter de l'argent pour pouvoir le publier. C'est assez touchant en fait, puisque c'est basé un petit peu sur leur vie, où ils ont eu des petits soucis, ils arrivent pas très bien à avoir des enfants. Et donc dans cette histoire, ils vont essayer de raconter un peu leur expérience à travers un récit un petit peu d'heroic fantasy, où on voit un couple qui a du mal à avoir un enfant, qui se retrouve à héberger un petit troll de famille. Donc ça a l'air tout mignon, tout gentil, et donc voilà, je pense que c'est un petit projet sympa à backer, quoi, sur Kickstarter. Et également, on a eu aussi des infos sur un projet qui concerne, lui, Art Balthazar, le dessinateur des séries Tiny Titans et Superman Family Adventure. Du coup, lui aussi lance en fait une nouvelle ligne de comics qui va s'appeler Oye Comics, et pour ça il demande un petit peu d'argent, et ça explique peut-être un petit peu pourquoi il a arrêté justement de faire Superman Family Adventure. Ça garde un peu le même genre de design, ce sera des histoires assez fofolles, et il a déjà des collaborations avec Jason Aaron, Mark Waid de prévu, donc des choses plutôt pour les enfants mais assez intéressantes.
Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si c'est des projets que vous avez envie de voir, bah rendez-vous sur Kickstarter pour donner un petit peu et puis aider à ce que ces projets voient le jour. On va passer maintenant au gros sujet de la semaine, c'est le What the Fuck Month qui arrive.
Mais what the fuck ?
Qui arrive en avril. C'est un mois où on n'a que des covers doubles, avec pour le moment de solliciter qu'une partie des covers. Alors certaines ont déjà filtré, certaines ont déjà été un petit peu spoilées. Sur chaque autre partie de cette cover, celle qui nous reste à découvrir quelque chose de shocking, c'est pour ça le what the fuck. Et on nous promet que ce sera un mois où beaucoup de choses vont arriver et que ce sera une pierre angulaire dans l'univers DC, puisque beaucoup de choses vont se passer et vont changer la donne actuelle des comics. Alors, on nous a déjà sollicité quelques petits trucs. Qui a envie de nous en parler?
Je sais pas, enfin...
Bah écoute, vas-y.
Moi, je veux bien. C'est un projet plutôt cool, moi, je trouve. Donc, on a eu des petits teasers comme quoi on aurait peut-être la réapparition de Booster Gold. Peut-être la disparition d'une autre équipe de super-héros dans le même temps. On nous a teasé aussi qu'une équipe de super-héros serait piégée dans une bouteille, pendant qu'une autre serait complètement changée. Il y aurait des changements aussi au niveau des costumes, au niveau des alliances avec les personnages. On aurait un retour de Pandora qui se battrait contre la mort, carrément. Le retour du Creeper peut-être, et peut-être d'anciens New God. Qu'est-ce qu'on nous a promis d'autre? Le départ d'un héros et un autre héros qui mourrait. Donc voilà, pas mal de choses quand même assez importantes, très mystérieuses. Le retour de Booster Gold, on en avait parlé récemment, c'est plutôt cool, s'il revient dans un titre.
Faut voir comment c'est fait, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. La fin de Justice League International laissait présager des choses assez bizarres. On va voir comment c'est fait, quoi.
D'après ce qu'il y a un petit peu teasé sur le net, ce serait peut-être un retour dans All-Star Western. Ce qui paraîtrait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Comme on sait qu'il y a des histoires avec les voyages dans le temps, avec Booster Gold. Puis ça permettrait peut-être de faire un peu rebooster cette série qui j'ai l'impression, décline un petit peu au niveau des ventes de mois en mois.
Rebooster Gold?
Ouais. Exactement.
Bon, il pourrait aussi arriver dans DC Universe Presents.
Peut-être,
nous annonce que justement un héros déplace hors du temps arrive dans les pages du dernier numéro de DC Universe Presents.
Ouais, c'est vrai. Et après, on a eu aussi de dévoiler la page double pour Stormwatch de Jim Starlin, donc la nouvelle série, enfin pas nouvelle série, mais disons que Jim Starlin arrive sur le titre. Et on a l'impression que c'est carrément toute l'équipe de Stormwatch qu'on a eu jusqu'à présent qui se fait défoncer par une sorte de créature un peu bizarre qui ressemble à l'Anti-Moniteur. Une nouvelle équipe avec des anciens personnages, dont certains créés par Jim Starlin. Donc ça a l'air un peu foufou et un petit peu étrange.
Sur Redwood, par exemple, aussi, on a eu la cover.
Alors là, ça a pas mal spoilé, hein, je trouve.
Oui. Alors, on a donc...
Du coup, je sais pas s'il faut trop qu'on en parle, mais...
On va le dire à demi-mot, quoi. Mais de toute façon, comme on sait pas exactement ce que c'est, ça reste assez, assez mystérieux. On a donc la première partie de la cover, on voit la moitié du visage de Redwood avec derrière lui, Starfire. Et sur la deuxième partie, qui a été un petit peu spoilée, on voit pas de casque, qui est le visage complètement cramé. Alors, est-ce vraiment Redwood ou pas?
Ah, ça, pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas Redwood, mais justement, c'est pour ça que ça spoil un peu. Enfin bon. On verra.
Benny, Corwin, vous pensez quoi un petit peu de ce What the Fuck Month?
Moi je pense que, enfin, ça m'intéresse, mais d'un autre côté j'ai un peu peur que ce soit tous tourné, que tout soit tourné en ridicule au fait, que ce soit un petit peu des jokes à droite à gauche. Donc par exemple le retour de Booster Gold, j'espère que ce sera pas juste un truc pour faire marrer et puis juste sur un mois histoire de faire coucou. Et j'ai juste un petit peu peur de ça, que ce soit vraiment un mois gimmick et qu'on ait que des pseudo retours ou des pseudo événements qui ne durent pas et qui soient juste là pour la blague, histoire de rentrer dans le moule, quoi, du thème de ce mois-là. Parce que ça me fait penser aussi au mois des éditeurs. Il y avait eu ça chez Marvel il y a très longtemps, dans les années 70, je crois, ou 80.
80, ouais.
Où c'était vraiment, c'était vraiment pas terrible, en fait. C'était un truc où les éditeurs intervenaient un petit peu dans les histoires.
Non, c'était le Assistant Editor Month, en fait. C'était que des assistants éditeurs. Mais c'était un mois pour faire du comic, en fait. À la base, c'était vraiment que des situations complètement rocambolesques et complètement folles, des choses. C'était pas forcément ça, parce que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais admettons un team-up entre Spider-Man et... comment s'appelle-t-il, pas Darkwing Duck, l'autre Howard the Duck par exemple. Voilà, c'est des choses complètement tarées comme ça qui arrivaient, mais ouais. C'était à vocation comique.
Ça me fait penser un peu à ça, et j'ai peur que ça tourne un peu au ridicule et à la blague, donc je sais pas, j'attends de voir, mais en tout cas je suis intrigué.
Pour l'instant on a une partie des covers, et si la plupart ont l'air d'être plutôt tragiques ou d'être plutôt sérieuses, hein. Enfin, je pense qu'on va vraiment vers des sortes de surprises par rapport à des futurs événements, mais pas sur le côté de l'humour, quoi.
Corwin,
par contre, il y aura quand même un truc, c'est je crois qu'il y aura des covers spéciales pour Mad, comme ce sera aussi un anniversaire et que ce sera le mois d'avril, il y aura des covers rigolotes mais spéciales à ce moment.
Corwin.
Oui, alors justement, ça tombe au mois d'avril, donc on peut se poser la question que se pose Bonnie, de savoir si ça va pas être juste du gros délire, parce que poisson d'avril, donc. Voilà.
C'est vrai qu'en plus on a ce tampon, hein, on a oublié de le préciser, mais on a ce tampon WTF, donc What the fuck certified.
What the face.
Voilà, c'est assez bizarre.
Donc ça c'est peut-être un petit peu une crainte de mon côté. On sait pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a certaines covers qui sont assez intrigantes, donc ça peut être complètement autre chose, ça peut être super intéressant. Et pourquoi pas un mois où on a que des gros cliffhangers à la fin de chaque série qui font qu'on va se dire putain c'est quoi ce bordel.
je traduis directement. Hein, effectivement.
À la fin de notre lecture, ça pourrait être sympa parce que ça va remonter l'intérêt du lecteur pour plein de séries. Moi, Booster Gold, par exemple, je le connais pas du tout, donc j'espère que je vais pouvoir découvrir ce personnage-là à ce moment-là pour pouvoir prendre le train en marche. Enfin, donc voilà, pourquoi pas. J'attends d'en savoir plus ou de le découvrir et d'être surpris et de me dire what the fuck, quoi.
Et faut pas se le cacher, c'est aussi pour le business, hein, parce que quand on voit le succès des die-cut covers de Batman pour Death of the Family, où on a carrément des numéros qui sont vendus sur eBay hyper chers, ça a été un gros succès, quoi. Donc je pense qu'il y aura le côté collectionnite et...
Ah, mais de toute façon, le pognon, c'est toujours le nerf de la guerre, donc ça, voilà. Faut le prendre en compte.
Une chose est sûre, en tout cas, c'est que ces covers, c'est vraiment l'ensemble des spéculations qui tournent sur le net en ce moment, quoi. Tout le monde se demande un petit peu ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va être vraiment si shocking que ça pour certaines ou pas. Ça a le mérite de faire parler, ça a le mérite de faire parler DC qui était franchement, à part en parler en négatif ces derniers temps, on parlait pas beaucoup de choses intéressantes chez DC. Après, reste à voir si on y aura pas, voilà, ce petit côté, tout ça pour ça, mais au moins on parle d'autre chose que des problèmes éditoriaux en ce moment.
Tout à fait.
Donc c'est déjà un plus pour eux, ils ont besoin de redorer un petit peu leur image, je pense, auprès en tout cas des fans qui suivent un petit peu l'actualité. Puisque bon, on va pas se cacher que les gens qui lisent ça un peu de façon casu, on n'en a absolument rien à foutre des problèmes éditoriaux.
C'est clair.
On verra, en tout cas, donc c'est pour le mois d'avril, il reste pas si longtemps que ça à attendre. Espérons que trop de choses ne vont pas filtrer à l'avance, qu'on ait quand même encore quelques petites surprises. Parce qu'on a pu voir aussi l'autre partie, par exemple, de la cover de Detective Comics 19, qui est le fameux épisode Triple Size pour ouais. L'anniversaire
du 100. Ça a été la première, puisqu'elle était dans le previews, en fait, carrément. Donc,
et donc on voit pour faire la pub. D'un côté Batman qui courait un petit peu, une espèce de cover assez iconique, et sur l'autre partie, on voit en fait qu'il est poursuivi par une espèce d'armée de Man-Bat. Bon, on va voir, puisque c'était cette fameuse histoire des 900...
Ah oui.
Voilà, est-ce qu'il y aura 900 Man-Bat d'un coup ? Jamais. Il va peut-être être dans la merde. Enfin.
Bah, peut-être bien, oui, quand même. Ouais.
Bon, en tout cas, on en reparle dès qu'on a un peu plus d'infos. Espérons qu'on n'en ait pas trop, hein, comme je disais. Qu'on ne sache pas tout ce qui va se passer à l'avance. En se disant, bon, on n'a plus qu'à attendre le mois de mai pour avoir des surprises. On va continuer avec la partie Screen News. Alors là, il y a du lourd cette semaine puisqu'on commence tout de suite avec une possible adaptation de Mind Management de Matt Kint qui sera actuellement chez Dark Horse. Et on aurait à la production un des frères Scott, le restant, donc Ridley. C'était mauvais goût, ça, en fait. Je m'en rends compte. Je sais pas comment je suis parti, là, mais j'étais très mal parti.
Tu voulais faire une blague sur les frères Scott encore, mais bon. Maintenant, c'est plus trop... de bon goût.
Ouais, non, je c'est mal parti finalement. Désolé du coup pour cette fan un peu crado. Donc oui, voilà, Mind Management qui serait optionné par la 20th Century Fox.
Tu as lu, toi, parce que j'avais commencé à lire un numéro et je m'étais arrêté en chemin, ça me plaisait pas trop.
Ces arbres, hein, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien qu'on ait une adaptation. Après, ça plaira au public à qui ça plaira. Je sais que c'est une phrase un peu bateau, mais voilà. Tant mieux, quoi. Un gros projet comme ça pour Matt Kint, ça lui mettra peut-être un peu plus encore en avant. Bon. Benny, Corwin.
Je sais pas, moi je me demande ce que ça lui mettra plus en avant, puisque c'est ce que t'as dit. Ça lui mettra plus en avant, donc bon, oui, d'accord. Mais j'attends de voir. Comme Bruno, j'étais assez sceptique.
Ça donne envie peut-être de se remettre dedans en se disant, ça a l'air d'être intéressant puisque ça plaît à des producteurs.
Moi, je connais pas du tout l'histoire. Par contre, je connais bien le réalisateur. Donc, j'espère qu'il nous fera pas un Prometheus bis. Enfin, dans le... ça sera, ça c'est pas la même histoire, mais Prometheus, j'ai pas du tout aimé. J'espère que ce sera plus proche d'un Blade Runner qui là, par contre, était excellent. Étant friand de cinéma, j'irai voir ce que ça donne sur grand écran, et peut-être que je me mettrai en comics après. Mais voilà.
Bah après reste la question de l'adaptation puisque c'est une série en cours, on en est à l'épisode je crois quelque chose comme 9 par là.
Il me semble qu'ils ont annoncé que c'était ça devenait un ongoing maintenant.
Ouais, mais c'est en fait au départ il avait pitché ça à Dark Horse sous la forme d'un ongoing. Dark Horse avait dit OK, mais on va quand même voir au niveau des ventes hein, ce que ça donne avant. Ils ont passé le cap de l'épisode 6 avec brio et donc ils vont continuer. Et normalement c'était une histoire qu'il avait prévue pour faire une 60aine d'épisodes à peu près.
Ah ouais.
Donc reste la question de quoi adapter finalement. Est-ce qu'on adapte toute l'histoire au risque de spoiler les lecteurs de comics de la fin ou est-ce qu'on adapte qu'un bout? Voilà, c'est assez bizarre de parler de projets, d'adaptation de projets pour des choses qui ne sont pas terminées. Ça me fait toujours
Ah,
bizarre, moi.
mais peut-être qu'ils vont justement adapter un bout, et puis si ça marche, et ben ils pourront faire la suite au cinéma, tout bêtement.
Oui, c'est une autre possibilité, effectivement. On continue avec Amazon, vous savez ce revival de la série Wonder Woman qui n'avait pas été plus loin que le pilote il y a de ça 2 ans. C'était optionné par la CW, logique. Et ben finalement on apprend que ça ne se fera pas, en tout cas pour cette année. Le pilote a été repoussé à 2014.
De toute façon, moi, une histoire sur l'origine du site d'internet Amazon, ça m'intéresse pas trop.
Ouais, non, mais pareil.
Oh là là. Oh là là, c'était pire que tout, cette vanne.
Ah ouais, non, mais
Non, mais
là, je
Bruno,
me
tu
disais
m'as
non,
ôté de la
pitié, quoi.
bouche.
Ouais, le pire, c'est qu'ils étaient deux à vouloir la faire, en plus.
Ah ouais, franchement, ouais, Corwin, bravo, on a bon goût tous les deux.
Voilà, j'assume. Moi aussi, je voulais faire cette blague.
Ouais, Alan Weinberg est toujours en train de travailler sur le pitch, en tout cas le scénario enfin le script, voilà, du pilote. Donc bon, bah effectivement, ce n'est pas prêt. On verra ça pour la rentrée 2014. Bon.
J'ai l'impression qu'elle est maudite cette série.
Carrément.
Franchement, ils ont vraiment pas de bol. Soit ça plaît pas au comité éditorial de la chaîne, soit c'est repoussé, enfin.
Enfin, ouais. Si c'est pour
Voilà.
faire un truc comme Arrow, de toute façon.
Ah, le troll qui revient, le troll qui revient à la charge.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a l'air d'être très dépendant. Ils sont très frileux là, Warner Bros. Ils attendent le succès de voir quel va être le succès de Superman avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'était pareil pour Justice League. Bon. Ils ont peur un peu là, on sent Warner Bros.
Benny, une petite vanne pour terminer sur Amazon.
Même pas, non.
Il préfère
Voilà,
Price
je...
Minister, lui.
Putain. Oh là là. On va
Voilà,
continuer.
je...
Oui, on va continuer, je crois.
Rien, rien du tout, là, cette fois-ci. Je suis battu à mon propre jeu, là.
On continue avec l'annulation, cette fois-ci officielle, de Young Justice et Green Lantern, The Animated Series. Ils ne sont pas reconduits sur la grille de la chaîne pour l'année prochaine. À la place, on va découvrir deux nouvelles séries, Teen Titans Go et Beware the Batman. Un peu décevant.
Bah, je trouve ça honteux. Voilà.
Idem.
Ah, bah vas-y, exprime-toi.
Bah,
C'est tout.
c'est deux bonnes séries. Enfin, moi, je prends plaisir à les regarder. Et je trouve ça dommage que ce soit annulé parce que elles ont toutes les deux un bon potentiel. Alors après, j'ai rien contre les deux autres projets, hein. Mais voilà, je suis déçu que ces deux séries s'arrêtent.
Le truc, c'est qu'on pouvait quand même s'en douter un petit peu vu la façon dont avaient été traitées les séries par Cartoon Network. Les avoir enlevées de l'antenne sans prévenir, les avoir ramenées que 3 4 mois plus tard sans donner aucune explication. Et il y a déjà eu une pétition qui s'est formée sur le net qui a remporté déjà 18 000 signatures en l'espace d'une semaine pour que la chaîne continue ces deux séries-là. Et la seule réponse de Cartoon Network a été de toute façon, il vous reste encore des épisodes à voir, donc rendez-vous tous les jours où ça passe, quoi. Voilà.
Ouais, il doit rester quoi, une dizaine d'épisodes peut-être pour terminer la saison, mais après c'est un peu triste de quitter. Enfin, moi je suis pas Green Lantern, il paraît que c'est bien, comme tu le
Oui,
dis,
c'est
Steve.
très bien.
Je
Si,
suis
c'est
Young
très bien.
Justice. Young
Ah,
Justice, c'est vraiment
Corwin
toujours aussi
aussi.
agréable.
Corwin aussi a dit que c'était très bien.
Ouais. Bah ouais,
Voilà.
c'est ce que j'ai cru comprendre. Young Justice, c'était vraiment très bien, ça me plaisait beaucoup. Et bah je suis déçu que ça s'arrête. Donc pour Green Lantern, bah c'est pareil, il y a aussi pas mal de fans. Puis bon, après ce qu'ils annoncent par à la place, c'est un nouveau dessin animé un petit peu en 3D, image de synthèse pour Batman. La première image, c'est on voit Dr. Pig avec la petite créature grenouille qu'il y avait dans le run de Grant Morrison.
C'est Kermit.
Je les vois très mal adapter le run de Grant Morrison en dessin animé pour enfants, sachant que c'était quand même Dr. Pig, c'est quand même le mec qui arrache le visage des gens et qui le recolle avis, sur d'autres gens quoi.
Ça va être vraiment édulcoré. Hein.
Donc ça déjà c'est un peu nul.
En plus l'adaptation de Beware the Batman.
Non, ça va être édulgoré.
Ah oui, ça voilà. Pas mal.
Vengeance de Bunny au niveau de la vanne, ça y est.
Ouais, pas mal.
Ah, c'est la contre-attaque là.
Ce que l'on sait en tout cas sur Beware the
la
Batman.
La vanne contre-attaque.
Ce que l'on sait sur Beware the Batman, c'est que donc Batman sera le personnage principal, bien sûr, et il sera accompagné de l'ancien agent secret Alfred et de l'épéiste tueuse Katana. Voilà. Ouais. Et donc ils seront trois.
Ben elle est là.
Ils seront trois contre tous les méchants et on nous promet pas mal de méchants qu'on n'a jamais vu dans des versions dessins animés. Donc la preuve avec Professeur Pig, Anarchy, Mr. Toad et Maggie, voilà les quatre premiers qu'on utilise.
Maggie.
Magpie, pardon, excusez-moi, je lis comme un cochon. Magpie.
Je croyais qu'il parlait de Maggie de la série télé française.
Mais c'est bien la katana qui va avoir une nouvelle série, c'est ça?
Oui, bien sûr, oui. Ça va être ce personnage.
Oui, d'accord. Donc c'est on voit qu'on recycle les personnages qui sont à la mode dans les comics aussi, quoi. C'est bien.
En tout cas, un petit peu décevant la façon dont Cartoon Network traite les projets et traite les gens qui sont derrière aussi. Voilà, puisqu'on sait très bien, même les scénaristes et les producteurs du show n'étaient pas au courant à l'époque de ce break, de ce gros hiatus de plusieurs mois. Et à mon avis, ils ont dû découvrir l'arrêt de leur série un petit peu à l'arrache comme ça aussi, quoi. Dommage. Mmh. Donc chez DC ça ne va pas, mais ça ne va pas question dessin animé aussi.
Ouais.
On continue avec le Super Bowl qui est passé ce week-end, c'était dimanche soir, et c'est l'occasion comme toujours d'avoir de nouveaux spots télé ou de nouveaux spots de bandes annonces de films, et on a pu découvrir quelques nouveaux teasers de Iron Man notamment. Vous les avez regardés?
Alors, moi j'ai pu regarder celui d'Iron Man 3 et celui de Into the Darkness.
Star Trek, oui. Star Trek 2.
Ouais.
Voilà, Star Trek 2. Dans l'ensemble, c'est pas mal, mais on n'apprend pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà vu.
Ouais, pas vraiment de nouvelles images. Hein.
Non, pas vraiment de nouvelles images. Si on a vu tous les teasers précédents, eh ben, on arrive à faire le lien. Finalement, c'est un montage différent, mais voilà quoi.
Moi je les ai tous vus aussi, celui d'Iron Man 3 était très drôle, enfin moi j'ai trouvé vraiment sympa puisqu'il promettait un extended look et en fait t'as Tony Stark qui te regarde.
Ah ouais, on a un Robert Downey Jr. qui cabotine à mort en enlevant ses lunettes, enfin...
Mais ça, on sait que c'est pas dans le film, c'était juste une blague pour le Super Bowl. Donc
c'était énorme quoi, c'était franchement très drôle. Énorme.
Oui, ça c'était bien fait, bien foutu.
Après j'ai vu aussi Lone Ranger et puis il y avait quoi, Fast and Furious 6 qui était annoncé. Lone Ranger, bon ça a l'air sympathique. Fast and Furious 6, le 5 était très bon, donc le 6 a l'air d'être... Non mais sans déconner, alors après c'est vraiment pas du grand cinéma, mais question action, c'était peut-être un des plus gros films d'action de ces dernières années.
Oh, oh la vache, comment tu vas fort.
Et ça a l'air d'être un peu la même chose. Mais je déteste les autres, hein. Je crois que j'ai vu que le premier en plus. Mais le 5 avait eu bonne presse, et effectivement j'avais passé un bon moment au cinéma quand je l'avais vu.
Du don.
Bruno et ils ont annoncé aussi, Furious, c'était le dernier podcast de Bruno.
Au revoir Bruno.
Non.
Et il y avait aussi un petit teaser sur la prochaine série qui sera, je crois entre autres, il y aura Brian Kevogan qui va travailler dessus et qui est tiré du roman de Stephen King qui s'appelle Under the Dome. Mais là on voit rien du tout.
Le roman s'appelle Dome en
fait. Ouais.
En tout court, tout simplement. Mais c'est pour la série, ils vont appeler ça Under the Dome.
Et on voit rien du tout par contre dessus.
Bunny, toi les trailers.
Moi, comme d'habitude, hein, je m'en tiens à ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire que j'en mate le moins possible pour apprécier au maximum les films concernés. Je t'avoue que de toute façon, de ces trailers-là, celui qui m'aurait le plus intéressé, c'est Iron Man, mais justement, je vais me le mettre de côté, je vais pas trop mater d'images d'Iron Man 3 pour le moment.
Honnêtement, on n'apprend rien sur le film. Hein.
C'est clair.
Mais ce que je retiendrai de cette séquence, c'est ton expression, donc il cabote, c'est ça?
Il cabotine.
Cabotine.
Cabotine, voilà, c'est ça.
Ouais, bah, ça veut dire qu'il en fait, des tonnes, quoi.
Ouais.
Moi, ce que j'ai retenu, moi, surtout du trailer, c'est que, avec les premières images, j'avais déjà cette impression, mais là, on le voit encore plus qu'on voit le mandarin dans le trailer du Iron Man 3, et j'ai vraiment l'impression, enfin, c'est dommage pour Ben Kingsley, mais j'ai vraiment l'impression de voir Robert Englund. C'est incroyable. Je trouve la ressemblance hyper frappante.
De Freddy?
Oui.
D'accord. Okay.
Regardez le visage. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'y fait vraiment penser, quoi. Bon, Star Trek Into the Darkness, pas vraiment de nouvelles images. Lone Ranger a l'air sympathique. Bon, si on connaît déjà un petit peu l'univers de Lone Ranger, voilà, on sait à quoi s'attendre. Et puis oui, effectivement, ce Under the Dome, pourquoi pas, une adaptation d'une série télé d'un roman de Stephen King, pourquoi pas.
Je suis déçu que t'aies pas regardé Fast and Furious 6.
Oh bah non, il en était pas question. Enfin bon, voilà, des petits teasers sympathiques qui nous apprennent pas grand chose de plus, mais qui permettent de remettre un petit peu d'huile sur le feu, en tout cas de provoquer un petit peu nos attentes, surtout. On continue avec le X-Men Days of the Future Past, donc le X-Men First Class numéro 2. On a appris qu'il se passerait en 1973, soit 10 ans après le premier film. Changement d'époque.
Ouais, bah ça c'est plutôt cool, parce que du coup, ce qui était sympa dans le premier, c'était ce côté années 60. Là, on sera une décennie plus tard, on gardera le côté un petit peu pop, je pense. Du coup, bon après on sait qu'il y aura sans doute des parties qui seront dans le futur, hein, puisque on va retrouver les X-Men de l'autre trilogie.
Voilà, ouais. On va retrouver tous les vieux.
Ou serait-ce des flashbacks, peut-être?
Peut-être, je sais pas.
Ouais, de toute façon je pense qu'il y a fort à parier que s'il y a un troisième, ce sera dans les années 80, du coup ils vont faire par génération comme ça. Moi, je suis toujours assez emballé, vu que j'ai adoré le First Class. J'ai hâte. C'est vraiment l'un des films dont j'ai le plus hâte de découvrir au cinéma.
Pareil, moi, j'avais trouvé que c'était le meilleur de la franchise X-Men, le First Class.
Ah, idem.
Pareil, idem.
Et j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont réussir à faire dans ce deuxième opus et à connecter les films précédents. Et comme disait Sam, s'ils arrivent à effacer le X-Men 3 et le Wolverine Origin, ça sera encore mieux.
Ouais, peut-être.
C'est ce qu'on espère en tout cas.
Ouais.
Toujours chez Marvel, une rumeur sur la phase 3 et Hulk.
Ouais, voilà, c'est toujours le même site internet, c'est Latino Review. Ils ont des sources internes chez Marvel Studios. Souvent, ils ont des bonnes sources puisque ça se révèle souvent vrai. Là, ça concerne Hulk et son rôle proéminent dans la phase 3, puisque l'idée ce serait qu'à la fin d'Avengers 2, les Illuminati, un petit peu version film, enverraient Hulk dans l'espace et du coup on se taperait après en phase 3 un film Hulk qui se passerait sur planète Hulk. Ce qui est pas illogique puisque bon, on en a un peu marre de voir toujours les origines de Hulk dans un film solo et de le voir se taper contre le général Ross. Ça serait plus péchu, je pense, de voir Hulk dans l'espace se battre contre des aliens, quoi. Et après, en fait, a priori, on aurait dans Avengers 3, le retour de Hulk, plus la grosse baston. Voilà, c'est vraiment des trucs qui sont dans le futur, c'est des rumeurs, mais c'est pas complètement illogique, et ça pourrait être cool.
Ouais, c'est alléchant, c'est alléchant.
Justement, puisqu'on parle de Hulk et des Avengers, Avengers a été nominé aux Oscars pour les meilleurs effets spéciaux. Ils seront en compétition face à The Hobbit, Life of Pi, et Prometheus et Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà. Bon, bah, on verra s'il remporte, mais c'est vrai que les effets spéciaux d'Avengers étaient quand même relativement bien foutus, pour ne dire que ça. Donc effectivement, ouais. ils ont leur chance.
Il y a le Hobbit en face.
Ouais.
C'est vrai.
Qui m'a
c'est
vrai. Plus impressionné, moi, côté voilà. Effets spéciaux.
Ah bon?
Ah oui.
D'accord.
Ah, Avengers, c'est bizarre, je l'ai pas encore acheté en Blu-ray, mais je l'ai vu à la Fnac sur des télés haute définition, et je trouve que les effets spéciaux ressortent carrément trop. Et ça fait vraiment bizarre. J'ai peur que le film vieillisse mal à cause de ces effets spéciaux. Qui sont impressionnants, mais qui font un peu trop. Un peu trop jeu vidéo, quoi, limite. Donc.
Enfin, pour terminer sur la franchise Marvel Studios, on apprend que Emily Van Camp obtient le rôle principal féminin de Captain America numéro 2. Donc bon, les spéculations tournent encore sur quel rôle elle va tenir, sûrement celui de l'agent Sharon Carter. Bon, on va voir en tout cas c'est Minnie Van Camp qu'on avait pu voir notamment dans Everwood ou dans Brothers and Sisters.
Je connais pas du tout.
Pareil.
Benny ?
Très peu, mais je vois qui c'est, ouais, effectivement. Mais j'ai pas regardé ces deux séries par contre.
On passe maintenant au film tiré, on va dire, de l'indé, puisque c'est Valiant qui a récupéré les droits pour faire un film Harbinger et qui vont continuer à développer le projet de leur côté. Alors ça, c'est assez étonnant, puisque
on
se doute bien qu'ils n'ont pas les capitaux, donc ils essayent de faire avancer le projet pour qu'un studio optionne le truc déjà prêt. Ils ont enfin récupéré les droits, puisque c'était Paramount qui les avait depuis 2008. Et voilà, ils n'en ont rien fait, donc ils continuent. Ça t'intéresse, ça, j'imagine, Benny, puisque toi qui suis pas mal l'univers Valiant.
Ouais, bah pourquoi pas, ça se prête assez bien au cinéma, Harbinger, mais oui, bah là, pour le moment, vu que c'est vraiment à l'état d'embryon, je sais pas.
Ce qui est flippant, c'est qu'il parle de Brett Ratner.
Non.
À la réalisation, mais c'est lui qui a fait X-Men 3, qu'on vous tous oubliez.
Les Rush Hour 3. Les Rush Hour.
Voilà, non mais c'est tout. Je veux pas vous casser le moral, mais...
Ouais.
Bon, comme on l'a dit...
J'en sais rien.
Rien n'est fait encore. En tout cas, ils ont récupéré les droits, ils veulent avancer sur le projet. Donc voilà, il y a au moins un petit peu de news, et parce que tant que c'est optionné par un studio qui n'en fait rien, le projet ne peut pas avancer. Là, au moins, il y a des possibilités pour que ça bouge. Justement, quelque chose qui ne bougeait pas depuis un petit moment, c'était la série télé Chou, qui avait été optionnée, ça avait été annoncé durant le San Diego Comic-Con de 2010. Finalement, ça devait arriver sur Showtime, et Showtime ne va pas poursuivre le projet. Un petit peu dommage.
Ils sont pas chauds.
Ouais, oh ouais. Là là, ouh, il m'a fallu une petite seconde.
C'est vraiment dommage. Ça aurait pu bien se prêter à une série télé, même si j'imagine que le budget serait quand même assez élevé, parce que ça se passe dans un univers qui est un peu proche du nôtre, mais quand même très différent. C'est un petit peu trash aussi, un petit peu gore. Du coup, à adapter en version live.
Mais ce qui est étonnant, c'est que Rob Guillory s'était exprimé là-dessus il y a 3 semaines, en disant que le show serait vraiment très loyal à ce que l'on voyait dans le comic, et que la durée d'un épisode passait de 1 demi-heure à 1 heure. Finalement, 3 semaines plus tard, on apprend que ça ne se fera pas, en tout cas pas sur Showtime.
Bah ouais, peut-être que justement ce qu'il souhaitait faire, ça convenait pas à Showtime, du coup. Ouais.
Pourtant, Showtime, une chaîne du câble qui recule pas devant les projets un peu.
Oui, en
hardcore.
Général, oui. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est dommage.
Bon, bah, peut-être une autre chaîne récupérera le bébé. Ce serait pas mal de voir Chou à la télé quand même.
Ou une série animée, moi, je trouve, ça serait peut-être pas mal pour Chou. Un truc bien trash en série animée.
Peut-être plus sur Adult Swim à ce moment-là.
Ouais, voilà, comme ça.
Peut-être une nouvelle série Cartoon Network.
Qu'ils annuleront sans explication en la mettant en hiatus pendant 3 mois.
Ah bah là, s'ils l'annulent, il y aura une explication, à mon avis, toute trouvée. Hein.
Enfin, on termine la partie Screen News avec J. Michael Straczynski qui refait parler de lui, et cette fois-ci, il va passer derrière la caméra.
Comment tu l'as dit ?
J. Michael Straczynski.
Ah oui, j'ai compris autre chose.
D'accord. qui va réaliser un film qui s'appelle The Flickering Light, qui se passera donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça parle d'un groupe de prisonniers roumains. J'arrive même plus à lire ce oh là là. qui sont dans un camp de concentration. Voilà, grosso modo, qui doivent absolument se faire passer pour des acteurs aux yeux des nazis.
Ça m'a l'air joyeux comme tout, dis donc. Non, mais par contre, non, ça peut être super intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait généralement dans les comics. Donc là, pourquoi pas, même si c'est pas du tout un truc super héroïque, visiblement.
Non.
Ça peut être très très bon, je sais pas, il a vraiment une écriture prenante, puis en plus, il a souvent écrit sur le passé, donc non, franchement, ça pourrait être...
Pas que, il a aussi écrit sur l'avenir avec Babylon 5.
Tout à fait, ouais.
Et
non, mais
Jeremiah
il a,
aussi.
ouais, il a un peu écrit sur tout. Mais non, mais voilà, il a une bonne plume, donc je suis assez assez client s'il fait un film, s'il réalise un film.
Ouais, moi c'est pareil, ça me tente bien. Déjà, j'aime beaucoup, enfin entre guillemets, la période de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre dessus. En plus, pareil, j'aime bien son écriture, et il a déjà prouvé qu'il était capable aussi bien de tenir un scénario de comics qu'un scénario de série télé, donc
Ah.
scénario porté à l'écran.
Niveau film, il avait scénarisé Underworld Awakening. Alors moi, j'ai arrêté de
Que j'ai pas
regarder.
vu.
J'ai arrêté de regarder Underworld après le premier. Hein, les vampires au cœur qui bat, moi, ça m'a fait trop rigoler dans le cinéma.
On m'a dit qu'il avait fait Fast and Furious numéro 5 aussi.
Il a aussi fait un truc qui s'appelle Ninja Assassin. L'un de vous l'a vu.
Putain.
Ainsi que le
Ninja Assassin.
Film de 2008 de Clint Eastwood, Changeling.
D'accord, ok.
Ah,
Ah,
il était pas mal. Enfin, moi, j'avais bien aimé Changeling.
ouais.
Et donc là, ce sera la première fois où il passe derrière la caméra. D'habitude, il était plutôt producteur ou scénariste. Là, cette fois-ci, c'est lui qui va le diriger, le film. Donc voilà, une première sur un projet qui apparemment lui tenait à cœur. La production commence en novembre d'ailleurs, donc ce sera à mon avis plutôt pour 2014, voire 2015 si la production et le montage prend du retard.
Non, bah, enfin voilà, c'est un film que j'attends. Tu vois, pour
Ouais,
une
bah
fois,
pareil.
en dehors des super-héros, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce genre de choses. Voilà. Pourquoi pas.
On va maintenant passer au badge de la semaine. Corwin, c'était quelque chose qui t'a un petit peu gonflé, toi, cette semaine.
Oui, c'est ce qui m'a gonflé. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, le fameux scandale du Grand Prix à Angoulême, qui a été accordé à Willem. Alors, j'ai rien contre Willem. Ce qui est dommage, c'est que lui en subisse un peu les conséquences. La polémique, c'est que cette année, ils ont changé un petit peu le système de vote pour décerner le Grand Prix. Donc, ils ont fait participer tous les auteurs qui étaient conviés. Donc, il y en a plus de 1500. Il y en a quand même un tiers qui s'est prêté au jeu, qui a voté. Et finalement, le comité n'a quasiment pas tenu compte du choix des auteurs. Et ils ont élu quelqu'un un petit peu comme ça leur chantait. Ce qui est regrettable, c'est qu'on avait cette année des grands auteurs de comics ou des grands auteurs de manga, et ils sont passés complètement à la trappe, au profit de quelqu'un qui était plus connu on va dire des anciens qui faisaient partie du grand jury.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que de leurs propres aveux, Akira Toriyama, par exemple, ils connaissent pas suffisamment pour pouvoir juger de son œuvre et pour pouvoir donc les lire. Donc ce qui est complètement absurde. D'ailleurs, ils ont fait, je crois, du coup, un prix spécial pour Akira Toriyama.
Bah c'est ça qui est un petit peu ridicule et qui du coup, enfin, ils ont créé un prix du 40e anniversaire exprès à cause du tollé qui a été ressenti auprès des auteurs quoi. Donc ouais, la shortlist à la fin en fait, parce qu'ils ont dû décider parmi cinq noms. Parmi les cinq noms, on avait Akira Toriyama, donc quand même Dragon Ball et compagnie, qui a quand même un peu créé le shonen. On avait Otomo qui a écrit Akira, qui est un des chefs-d'œuvre du manga. On avait Alan Moore. Bon, Alan Moore, si en plus ils nous disent qu'ils connaissent pas Alan Moore, ça fait un peu chelou.
Sachant qu'ils l'ont primé deux fois, ouais.
Totoro,
Sachant qu'ils l'ont primé deux
voilà,
fois quand
ouais.
même pour Watchmen et V for Vendetta.
Le tombeau des Lucioles, tout ça.
Et le dernier, il me semble que c'était Crumb. Voilà. Et puis Willem aussi. Donc, d'après
On se
ce
rend
que
compte
j'ai
finalement
compris.
que dans ces cinq-là, il n'y avait qu'un seul artiste français.
Bah, il n'y en avait pas d'ailleurs.
Oui, enfin.
Puisque Willem est pas français. En plus.
Ah bon?
Il a quand même gagné la nouvelle star.
Il est hollandais.
Ah oui, pardon, autant pour moi.
Mais par contre, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait c'était Akira Toriyama qui a eu le plus de voix au décompte des auteurs en fait. Donc c'est lui qui normalement aurait dû devenir le Grand Prix d'Angoulême.
Voilà, puis il y a eu aussi pas mal de communication sur Twitter de certains auteurs en disant oui, voilà, c'est une honte, ils ont même pas pris la peine de lire ce qu'avaient fait les shortlistés. Enfin, donc des bruits qui venaient même carrément de l'intérieur du comité qui devait décerner le prix.
Non, mais de toute façon, le problème avec ce genre de jury, c'est que quelquefois, c'est des personnes qui sont totalement, je dirais, hors de leur époque, quoi, qui sont normalement amenés à juger un truc qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un peu problématique. Faudrait vraiment que le jury soit constitué de gens, pas que des gens qui ont plus de, je sais pas quel âge ils ont, mais bon, j'imagine qu'ils ont plus de 60 ans, quoi, ces gens-là. Donc, faudrait peut-être qu'il y ait un petit peu de toutes les générations dans les membres du jury,
Oui,
quoi,
ou
qu'il y ait des
alors
gens de 20 ans.
exiger que les membres du jury lisent, je sais pas, deux ou trois œuvres de chacun des artistes
Mais
qui
va
sont
faire exiger,
nommés, quoi.
Va exiger quelque chose à un membre de jury, c'est.
Ouais, mais c'est la moindre des choses. Enfin, je veux dire, quand
oui,
t'es
non,
dans
je
un
sais
jury,
bien. Je sais bien, le minimum déontologiquement,
quand bien même
c'est ce qu'il faut
le
faire.
Le problème reste entier, hein. J'imagine mal quelqu'un de 60, 70 ans, d'un seul coup, devenir super fan de Dragon Ball Z et sortir dans la rue en faisant Kamehameha, je vais acheter mon pain.
Non, non, mais c'est vrai que effectivement, le minimum, c'est quand même de lire au moins un tout petit peu de chaque artiste qui est primé quand tu. Quand tu dois décerner un prix, connaître un minimum l'ensemble de la carrière de chacun, quoi. C'est le minimum syndical. Maintenant, si les gens ne le font pas, on peut pas les obliger à le faire, malheureusement. Enfin,
Non, non, mais c'est clair. Mais...
Puis qu'est-ce qui va prouver que tu l'as vraiment lu? Enfin, après, c'est tout un tas de considérations différentes, mais comment prouver, enfin, t'imagines de demander à un membre du jury? Oui, alors vous allez être sélectionné comme membre du jury. Par contre, vous devez remplir ce petit questionnaire pour vérifier si vous avez
Alors,
bien.
comment s'appelle le fils de Bulma et de Vegeta?
Tortue géniale?
Non, voilà. Mais ça aurait été quand même cool d'avoir Akira Toriyama à Angoulême, quoi, l'année prochaine. Parce que du coup, celui qui est élu, normalement, devient président du festival l'année suivante.
Moi, j'aurais préféré l'amour, histoire que.
Ouais,
tout le monde ne serait pas venu.
Ah, on sait jamais, on sait jamais.
Non,
on ne
serait pas venu.
Il fait quelques conventions, hein, en Angleterre encore.
Ouais, très rarement. Très, très rarement. Voilà, donc c'était le bash de la semaine, à moins que quelqu'un ait autre chose à rajouter.
Non, ça va, pas de bash.
Benny?
Non.
Le fait de t'être fait piquer la vanne sur Amazon, peut-être?
Oui, voilà, de toute façon, je vous en voudrais jusqu'à la mort, c'est tout.
Allez, on termine très rapidement par... Pardon, excuse-moi, Corwin, je te coupe.
Ah, je disais même pas peur à Benny.
Ah, d'accord. On termine très rapidement par les mails. On commence par un mail de Sentry qui nous dit « Avant de vous poser quelques questions, je voulais d'abord vous remercier pour le moment passé en live. C'était génial. Je reviens quand vous voulez. Bah, de toute façon, on en refera prochainement. On n'a pas encore fixé de date, mais voilà. Et je remercie également Bruno et Claire pour leur réponse sur Twitter. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. Ma première question est simple. Papa Noël vous a-t-il rapporté l'intégrale d'AVX ?»
Moi.
Non, personne.
Non.
Bizarrement.
Non, mais il a mis un smiley, c'est une plaisanterie.
Alors, comment s'est passé Angoulême pour vous? Avez-vous réussi à survivre à l'expérience cognac?
Faut expliquer
on
un
l'a
peu.
Pas tenté. Alors, l'expérience cognac, c'est vrai, en salle de presse, on pouvait se détendre aussi, bosser un petit peu plutôt tranquille dans une salle où on avait internet et un bon
débit.
Il n'y
avait pas de masseuse. Hein.
On avait aussi surtout un très bon débit dedans et ça, c'était quand même relativement agréable. Et on pouvait donc boire un coup, donc soit du café, du jus d'orange, ce genre de truc. Gratuitement, ce qui est aussi sympa, mais on pouvait aussi tenter l'expérience cognac, c'est-à-dire un petit verre de cognac pour découvrir le cognac de cette fameuse région de Charente. Nous, on l'a pas tenté. Hein. Franchement, quand tu dois bosser toute la journée, faire des interviews que t'arrives complètement pété, j'en connais qui l'ont fait, qui étaient bourrés à 11h du matin.
Ouais, c'est beau ça.
Qui avait ensuite des rendez-vous éditeurs bourrés à complètement bourrés à des 11h du matin. Et si bien que, après les avoir déjà croisés dans la journée, on les recroise à 15h et nous disent bonjour. Et on s'est dit, bah, quand même, je ne donnerai pas de nom. Voilà. Parce
non,
que...
non.
Moi j'ai des idées, mais je ne sais pas, donc je m'abstiendrai pour le moment.
voilà, donc non, on n'a pas tenté l'expérience cognac parce qu'on voulait pouvoir faire nos interviews de façon correcte.
Sobre.
On continue avec, donc voilà, pour les questions sérieuses, je vais commencer par une qui va peut-être me valoir les foudres de Steve. As-tu réussi à te dépatouiller avec la partie manquante du live? Bien que je sois dans la partie publiée, j'aurais aimé réécouter les autres auditeurs. Alors, pour le moment, non, pas du tout. J'ai toujours la dernière partie, mais il me manque environ une heure et demie de live. Ça m'embête franchement de publier cette dernière partie. Je crois que je vais devoir m'y résoudre, puisque pour le moment, j'arrive toujours pas à récupérer l'heure manquante, en fait. Donc, je vais peut-être devoir me résoudre à publier cette dernière partie d'une heure et demie. Mais je vous avouerai aussi qu'avec Angoulême et tout ça, j'ai eu moins de temps de m'en occuper. Je vais essayer de m'activer un petit peu et de faire en sorte que vous puissiez écouter la fin du live. Je continue. Maintenant, une question pour toute l'équipe. Quel est le titre que vous rêveriez de voir dans les New 52 et Marvel Now, et avec quelle équipe créative? Pour moi, ce sera un nouveau titre, pardon, Exiles par Greg Pak et Jim Chung pour Marvel Now, avec Blink de Age of Apocalypse, et un titre Booster Gold et Blue Beetle par Grant Morrison et Jim Lee, qui explorait un nouveau multiverse DC. Qui, donc ça c'était les réponses de Sentry, hein.
Ouais.
Qui a envie de se lancer?
Ah d'accord, je crois que c'était les tiennes.
Non,
en
non,
plus.
Non.
Je me disais pas le truc. Je me disais putain, il a préparé le truc comme un gros ouf.
Moi j'aimerais bien le retour de Plastic Man chez DC. Et puis si ça pouvait être Michael Allred au dessin, ça pourrait être cool, mais bon, comme je sais qu'il s'est un peu fâché avec DC, ça va être un peu difficile.
Oui, mais enfin bon, là on parle d'équipe de rêve, hein, donc
voilà, mais ouais, un Plastic Man avec Michael Allred qui dessine, ça pourrait être cool.
Corwin?
Alors moi chez DC, j'aurais pas trop d'idées vu que je m'y suis mis il y a pas si longtemps que ça. Chez Marvel, moi, je sais pas, je rêverais d'un titre avec donc des X-Men que j'aime beaucoup, comme Gambit, Wolverine, une équipe un petit peu de X-Men qui sont pas forcément tout propres sur eux.
L'équipe du dessin animé des années 90, quoi.
Ah bah par exemple, voilà.
Version par Uncanny exemple. X-Force.
Ouais, ouais, ça serait, je pense que ça serait le pied. Après, au niveau de l'équipe créative, je dois avouer que tant que c'est une bonne histoire, m'en fous.
Benny, tu as quelque chose, toi?
Hickman, sur...
Hickman, ouais, bien sûr, sur, bah, sur tout. Hein,
sur Spider-Man.
À la fois sur DC et sur Marvel. Non, mais alors, tiens, bah oui, tiens, alors chez Marvel...
Du vrai Spider-Man.
Moi j'aimerais
vous
bien, ouais,
Amazing
j'aimerais bien.
Spider-Man est pas supérieur.
Déjà, ouais, Amazing Spider-Man par Christos Engage, ce serait bien. Je pense. Je pense qu'il a, il a la capacité de faire un bon truc et surtout il est relégué au second plan depuis trop longtemps. Il est temps que ça change. Voilà. Et puis chez DC, j'aime. Alors bon, après le dessinateur. Pas Larry Stroman, voilà, mais après vous piochez dans ce que vous voulez, quoi. ni Timothy Green 3,
oh, putain,
Green
oui.
2, je sais plus comment il s'appelle.
Deux.
Non, mais enfin voilà, non mais un dessinateur correct, quoi, c'est tout ce que je demande, mais pas vraiment de préférence. C'est surtout des bonnes histoires que j'aimerais voir sur Spider-Man. Et puis sinon, bah chez DC, ouais, Booster Gold, moi j'aimerais toujours voir Booster Gold. Alors l'autre fois je disais par JMS, bah même si ça semble totalement impossible, ça me ferait bien marrer quand même. Quoi.
Ok. De mon côté, franchement, là, je suis un petit peu perdu. Je sais pas, moi, peut-être une série, effectivement, une série sur Booster Girl, ce serait pas mal. Mais chez DC, je verrais bien une série Wally West. Ça me ferait bien plaisir. Ouais. Comme ça.
La Flash Family, là, tu sais, ils voulaient faire une série sur la famille des Bolides.
Ouais.
Je sais plus comment ils voulaient l'appeler cette série, mais à un moment Jeff Jones avait ça en projet et puis c'est jamais arrivé, quoi.
Ça c'est quelque chose qui me plairait plutôt pas mal, ouais. Du côté de chez Marvel, je sais pas trop. Un titre Avengers peut-être par Peter David, ça pourrait être intéressant. S'il nous fait un aussi bon boulot que sur X-Factor, quelque chose vraiment en marge comme ça, mais qui est capable d'allier le très sérieux avec le très humoristique.
Parlant de Peter David, j'ai vu qu'il scénarisait un des derniers épisodes de Young Justice, justement. Donc, c'est un gars qui fait vraiment, qui touche à énormément de choses.
Et d'ailleurs, j'ai vu ça dans une interview d'Axel Alonso cette semaine. On lui posait la question par rapport à, justement, l'attaque qu'avait fait Peter David. Comment ça allait se passer pour les scénarios d'X-Factor? Et en fait, tout simplement, il en avait écrit déjà pas mal d'avance, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'épisode. Enfin, voilà, il n'y aura pas de retard et il va pouvoir continuer le temps qu'il se remette. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On termine le mail de Sentry qui nous dit « Ma dernière question pour le fun. Si Jean-Lo vous donnait les clés de la Jean-Lauréane, à quelle époque et quel comics irez-vous acheter ? Un seul autorisé, sinon c'est moins marrant. »
Bah c'est facile, hein. Enfin pour moi, j'irai prendre Action Comics, j'en achèterai plein du numéro 1.
Non, un seul comics.
Ouais, mais j'achèterai Action Comics numéro 1. Et puis... Puis je leur vendrai super cher et comme ça, ce sera trop cool.
Je crois qu'on ferait tous la même chose puisqu'après, on pourrait acheter tout ce qu'on veut.
Ouais.
Quelqu'un a une autre réponse, peut-être? Corwin?
Ouais, en 74 pour acheter le Incredible Hulk 180.
Ah.
Puisque c'est la première apparition de Wolverine et c'est pareil, ça vaut très très cher.
Et toi, Benny?
Moi, je ferais encore mieux que ça, c'est-à-dire que j'irai à l'époque de la création de Marvel et je casse la gueule à Stan Lee et puis je prends sa place, quoi. Comme ça, je me fais tous les comics que je veux, j'ai tous les scénarios en tête et puis je me fais des couilles en or en plus, donc c'est génial.
Mais je sais pas, moi perso, j'aimerais pas être à sa place parce que c'était quand même un rythme de travail de malade et je suis pas sûr que je tiendrais le choc, honnêtement.
Ouais, mais là, t'as tous les scénarios en tête, t'imagines? T'es tranquille. Tu sais ce que tu dois faire. En plus, tu peux tout changer à ta guise. Gwen Stacy, elle est morte? Oh, bah non, bah tiens, elle va pas mourir, Gwen Stacy. Ça va être Mary Jane, tiens, allez hop.
Ouais, bon, en tout cas, je pense que oui, là, effectivement, la réponse la plus simple reste quand même aller acheter un Action Comics numéro 1 et le revendre pour se faire plein de sous-sous et acheter tout ce qu'on veut.
Exactement.
Non, mais à ce moment-là, t'en prends une collection.
Ah non, non, non. C'était un seul comic, ça c'était la contrainte.
Ah, c'était un seul. Ah oui. Et pourquoi? Si on en prend deux, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, tu fais un problème temporel et le monde disparaît.
Chiche. Voilà, allez.
Voilà, voilà.
Je termine le mail de Sentry qui nous dit: bon, je pense que le quota de questions est déjà bien rempli. Il est temps de vous faire des bisous et vous dire à bientôt, peut-être pour un live ou en vrai au LCF, Comic Con ou PCE. J'en cite trois pour que ne vous soyez pas embêtés par le CSA. Voilà. Donc merci à toi, Sentry, pour ces petites questions qui nous ont fait bien rire. On termine avec un deuxième mail de Jack qui nous pose une petite question. Alors là, peut-être que vous aurez une réponse. Moi, pour le moment, je n'ai rien. Il nous dit: bonjour. J'ai besoin, pour assurer ma collection de planches originales et de dédicaces, de passer par un expert. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse le faire? Alors, connaîtriez-vous un expert, justement? Voilà.
Planche, c'est difficile pour tout ce qui est... Pour les comics, c'est plus simple parce qu'il y a des guides qui permettent d'évaluer le prix de certains numéros. Par contre, pour les planches et les dédicaces, c'est beaucoup plus chaud. Je sais qu'à Angoulême, on a vu
bah
qu'il
oui.
y avait un vendeur justement de vieux comics. Je sais plus comment il s'appelle. Il pourrait peut-être le contacter
Moken.
Pour avoir des infos.
Ouais.
Peux-tu répéter
Mark Moken.
Oui, voilà.
Mark Moken, avec Moken, je crois.
Qui vend des dédicaces et il vend aussi des planches originales. Peut-être qu'il aurait, s'il rentre en contact avec lui...
C'est un très très gros collectionneur, ouais. Un très très gros collectionneur de planches originales et de vieux comics parallèlement. Et puis, à mon avis, il doit quand même pas mal s'y connaître sur la question.
Alors, fait-il de l'expertise, ça, je ne sais pas. N'hésitez pas...
Non, mais par contre, il connaît peut-être justement des gens qui en font. Mm-hmm. Je sais pas, enfin voilà, il pourra peut-être te renseigner. Mais alors... est-ce que j'ai encore ces contacts? Je ne sais plus.
Moi, je l'ai là, si tu veux. J'avais la carte.
Ah, bah alors, nickel.
Eh ben, on mettra...
On mettra le mail, ouais.
Oui, ou bah,
on lui enverra le mail, ce sera plus simple à Jack.
Oui, tout simplement, oui, on l'enverra.
Voilà.
si jamais, vous, auditeurs, vous connaissez quelqu'un, justement, qui s'y connaît comme ça en expertise pour des planches originales et les dédicaces, bah, n'hésitez pas à nous le faire partager en commentaire, et puis j'espère que ça répondra à la question de Jack.
Par contre, pour Jack, si t'as une dédicace, enfin une planche originale de Jim Lee, je sais que ça vaut pas très cher. Je veux bien te la racheter pour 2 €.
Ouais. Moi, j'allais dire, si jamais tu es sur Paris, il me semble qu'il y a une galerie au niveau du quartier Saint-Michel qui vend des planches originales de comics, mais je suis plus sûr du tout.
Ah, c'est pareil. Font-ils de l'expertise? Puis bon.
Et voilà, mais. Peut-être qu'il saurait vers qui orienter.
Puis ouais, on ne sait pas où est situé Jack, il nous l'a pas dit dans son mail, donc voilà. Bon bah, si tu es sur Paris, en tout cas, c'est vrai qu'il y aura plus de chances vraisemblablement de trouver quelqu'un pour faire ça que en province. Ça c'est clair et net. Voilà, et bien c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose de Weekly News. Donc exceptionnellement, vous la diffusez le mercredi, hein, puisque nous étions pas... Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas encore chez moi pour l'enregistrer le lundi. De toute façon, j'étais pas en état, trop fatigué. On se retrouve donc jeudi pour... Non, samedi, pardon, pour le Comics Weekly. C'est nous qui l'enregistrons jeudi, pardon. Et puis, très bientôt pour d'autres podcasts, toutes les interviews d'Angoulême qui débarqueront en vidéo et des petits bouts en audio, des petits extraits en audio pour vous faire patienter d'ici ce que les vidéos soient montées. Et puis, le podcast spécial Angoulême dans la semaine. Voilà.
Salut à tous.
À bientôt.
Bonsoir tout le monde.
Ciao, ciao.
Hop.
C'est
bon.
On peut mettre stop. Alors...